l'ouvrage qui nous réunit ce soir, donc cette présentation, ouvrage La nature en ville, dont les co-auteurs sont là et donc auront le plaisir de vous indiquer qu'est-ce qui fait la substance de leur réflexion. Un ouvrage qui est publié par les éditions Atlantique. Alors, c'est toujours un peu difficile de connaître quelles sont les relations entre l'espace Mendès France et les éditions Atlantique. Donc, les éditions Atlantique, c'est une structure qui est indépendante, qui mène sa vie avec donc son travail éditorial. Mais c'est une structure qui fonctionne en synergie très étroite avec l'espace Mendès France, notamment parce que une sorte de bateau amiral, vous le connaissez tous, c'est la fameuse revue L'actualité Nouvelle-Aquitaine, qui est donc une production de l'espace Mendès France, mais qui est publiée par les éditions Atlantique. Alors ces éditions Atlantique, elles ont pour vocation, pour objectif de surtout publier des chercheurs régionaux de la Nouvelle-Aquitaine sur des sujets qui ont une forte connotation régionale ou territoriale. Les publications phares de cette maison d'édition ont donc des travaux qui se sont bien vendus. Il y a le fameux « Mais qu'est-ce que Poitiers, qu'est-ce que Los Angeles a-t-il de plus que Poitiers ?» Alors ça c'est très très bien vendu, puisque avec ce titre énigmatique, on cherche à savoir effectivement quelle est la différence entre Poitiers et Los Angeles, n'est-ce pas ? Ça saute pas aux yeux. Alors il y a aussi un ouvrage qui se vend très bien, qui est un safari historico-gastronomique avec des illustrations de Glenn Baxter, qui est donc un illustrateur très connu. Il y a aussi un ouvrage plus scientifique, mais qui est extrêmement intéressant parce qu'il n'y a pas l'équivalent. C'est celui qui porte sur la flore sauvage en Poitou-Charentes. C'est un inventaire de la flore sauvage. Et puis alors... Oui, bah, c'est ça. Et puis alors, il y a toute une série d'ouvrages dont je ne vous recommande pas la lecture si vous êtes sensible, mais qui ont un très grand intérêt pour les spécialistes. Ce sont des ouvrages d'odontologie médico-légale. Donc, en général, quand on le feuillette, on a un petit peu le haut le cœur quand on n'est pas spécialiste. Mais c'est une très grande originalité de cette maison d'édition. Et il se vend au niveau international parce que les collègues spécialistes de ce domaine à Poitiers ont fait un travail très très original dans ce domaine. Voilà, donc les éditions Atlantique, c'est une production qui en quantité n'est pas énorme, mais qui se spécialise sur certains domaines, dont les questions de territoire et de nature. Et donc on a le plaisir d'accueillir les collègues qui ont dirigé cet ouvrage. C'est le premier tome. On aura un deuxième tome dans quelques mois. Il est déjà tout prêt, mais nous avons un calendrier éditorial qui fait qu'on va temporiser un petit peu et on va sans doute intercaler une autre publication entre les deux. Mais Marie Ferru va vous en parler puisqu'elle dirige la collection qui s'appelle Espace vécu. Donc on ouvre une nouvelle perspective dans les éditions Atlantique. On voudrait parler du territoire que vivent les gens. Voilà, parce que le territoire, très souvent, on en parle d'un point de vue institutionnel, on en parle d'un point de vue un peu abstrait, et là, c'est à partir de ce que vivent les gens. Donc, cet ouvrage, il en fait partie, et on va lancer des initiatives autour de cela, mais Marie va vous en parler. Alors, vous allez le voir, La nature en ville, c'est un ouvrage qui se vend déjà très bien. Il est en vente sur notre site et puis il est en vente là à l'accueil ainsi que dans les librairies que vous fréquentez. Il est très intéressant parce qu'il pose la question de la nature du point de vue donc du citadin, mais pas seulement. Aussi, la manière dont le citadin se représente la nature à l'extérieur de cette ville et la manière dont les gens qui ne sont pas citadins s'approprient la nature ou l'image de la nature, y compris d'un point de vue d'habitat aggloméré. Donc il y a ces questions-là. Il y a des questions aussi de groupes sociaux qui ont une vision différente et parfois ça donne lieu à des conflits. Et puis, la nature en ville, ben, c'est évidemment un sujet pour les aménageurs. Et cet ouvrage, il raconte assez bien comment les aménageurs ont fait évoluer leur perception de la nature en ville, en relation, bien sûr, avec la perception des individus, comme je le disais dans un premier temps, et des groupes sociaux qui vivent la ville. Donc, il a le grand avantage de décliner toutes ces problématiques, et donc c'est extrêmement intéressant. Et évidemment, on n'apprendra rien, mais c'est quand même très très bien décrit sous différents aspects. Ah ben la question de la nature n'est pas consensuelle. Oui, oui, bien sûr. Donc elle est conflictuelle et ça c'est très très bien décrit avec des illustrations qui ont lieu dans d'autres pays. Donc plein d'exemples étrangers qui nous permettent aussi de prendre un peu de hauteur parce que on est trop souvent enfermé dans nos contextes nationaux. Voilà, donc merci beaucoup. Je laisse la parole à Marie qui va nous expliquer quel est le sens de cette nouvelle collection que cet ouvrage inaugure. Et puis ensuite, on aura la présentation. Voilà, merci.
Merci Pascal. Donc je ne vais pas prendre trop de temps sur la présentation par les auteurs de l'ouvrage, simplement pour vous donner quelques mots sur cette nouvelle collection qu'on souhaite développer en lien avec la direction scientifique de l'Espace Mendès France. Donc cette nouvelle collection, comme vous l'avez entendu, c'est une collection qui s'appelle Espace Vécu. Et donc depuis un an, on travaille à la programmation éditoriale de cette collection. Et vraiment avec un objectif assez, assez clair, c'est d'apporter des connaissances aux citoyens, aux élus, aux acteurs intéressés par les problématiques territoriales, leur donner des connaissances et vraiment à l'image de l'Espace Mendès France, vulgariser, donner accès très facilement à ces connaissances qui sont aujourd'hui indispensables pour bien comprendre le monde qui nous entoure. L'Espace Mendès France a historiquement eu un intérêt pour ces problématiques territoriales. Il y a eu un ouvrage qui avait été publié en 2017 déjà sur Éloge de la diversité dynamique territoriale par un de nos collègues. Et en fait, on a voulu véritablement remettre au cœur de la programmation scientifique des éditions ces problématiques qui sont aujourd'hui très, très prégnantes. On voit dans les discours des politiques, mais aussi dans les médias, partout parler de territoire. La question du territoire est d'autant plus forte aujourd'hui qu'on a une espérance dans le local. Auparavant, on avait la sensation que le territoire existait moins avec la mondialisation. Aujourd'hui, on se rend compte, et notamment avec la pandémie, on s'est rendu compte de l'importance des territoires. Donc finalement, aujourd'hui, on veut se poser la question de comment on vit sur les territoires, comment on peut mieux comprendre les mutations à l'œuvre est-ce qu'on doit avoir espoir justement dans le local, comment on peut le faire, etc. Donc c'est bien ces problématiques-là auxquelles on va s'attacher avec un angle plutôt problématique énergétique climatique ou inégalité sociale ou modèle économique. On va avoir différents angles très complémentaires les uns aux autres. Et on a le plaisir aujourd'hui justement d'inaugurer un premier ouvrage sur une problématique forte sur les territoires, c'est la question de la relation ville-nature. Et donc, dans chacun de ces ouvrages, et comme c'est le cas pour ce premier ouvrage, on a vraiment à cœur de donner la parole à des chercheurs qui vont vraiment être des spécialistes, mais pouvoir aussi donner accès à ces connaissances. Donc, des chercheurs spécialistes qui vont intervenir et qui vont parler dans ces ouvrages de ce qu'ils connaissent le mieux, mais aussi des acteurs de terrain, des acteurs du monde socio-économique. Dans certains des ouvrages, on pourra leur donner la parole pour rendre compte des initiatives locales aussi sur les territoires. Et ces différents ouvrages de la collection auront vraiment pour objectif de donner des clés de compréhension aux citoyens, comme je vous l'ai dit, aux élus, aux acteurs de territoire, mais aussi aux personnes qui souhaitent passer des concours de la fonction publique. C'est notamment un peu le cas d'un des ouvrages, je vais vous en reparler. Donc c'était vraiment cet objectif qui nous a animés tout au long de cette programmation éditoriale. Donc on a un premier ouvrage sur la nature en ville. Donc on aura un deuxième tome, ce qui a été dit à la fin de l'année 2022, et on intercalera par un autre ouvrage qui sera donc un ouvrage assez clé de la collection, dans le sens où il cherchera à dresser un panorama assez large des problématiques territoriales. Donc le deuxième ouvrage normalement sortira un peu avant l'été. Il parlera des mutations en cours et on fera un état des lieux, des savoirs sur ces problématiques-là. Là encore, et comme dans chacun des ouvrages, comme je vous l'ai dit, on aura une pluralité de chercheurs experts en sciences humaines et sociales, mais pas que. des acteurs du terrain. Et puis, on posera la question du savoir, comment, en fait, on analyse aujourd'hui les territoires, mais la question aussi de habiter le territoire, comment on vit aujourd'hui sur les territoires. Et puis, les questions aussi de la production, comment on produit. Vous avez vraiment entendu ces problématiques-là avec, je vous le disais, la pandémie, l'alimentation. Quel est le modèle, le renouveau productif possible sur les territoires? Et puis évidemment, comme question prégnante aussi, c'est la question de la gouvernance, des politiques publiques qu'on peut mettre en place sur les territoires pour réguler la société. Et puis la question des projets collectifs, comment on met en place une dynamique collective sur les territoires. Donc ce deuxième ouvrage, on vous en reparlera, aura cet objectif de vraiment dresser un panorama des problématiques territoriales actuelles. Voilà. Donc je ne vais pas développer plus, c'est simplement pour vous donner un peu envie aussi de suivre cette nouvelle collection des éditions Atlantique. Et donc je vais laisser la parole tout de suite aux auteurs de l'ouvrage La nature en ville et cette relation ville et nature.
Alors on n'a pas répété, hein, non, ce sera vraiment à la bonne franquette. On va se passer la parole à Amélie et moi. Tu veux que je... Alors, ce n'est pas simple de parler d'un ouvrage comme celui-là parce qu'il est issu d'une dizaine d'années de recherche. Je me souviens, on a commencé à réfléchir dessus dans les années 2012, ça fait longtemps déjà. À l'époque, quand on parlait de la nature, on l'interrogeait en tout cas dans la littérature francophone comme support de biodiversité, comme bienfait pour l'approvisionnement, nettoyage des sols, de l'eau, etc., de l'air, mais rarement sur ce qu'on appelle dans le jargon les services culturels, c'est-à-dire, on va dire, le bien-être en ville. Et donc, avec un certain nombre de chercheurs à l'Université de Tours, à l'époque, on était tous les deux à l'Université de Tours, on a monté un programme de recherche financé à l'époque par la région Centre-Val de Loire, dans lequel plusieurs disciplines, plusieurs chercheurs de plusieurs disciplines, pas seulement des géographes, mais également des écologues, des sociologues, etc., ont souhaité interroger donc ce qu'apporte la nature pour la ville, hormis tout ce qui concerne la biodiversité. Et donc, quand on parle de la ville, on parle aussi des gestionnaires. C'est pour ça que dès le départ, dès l'ADN de ce travail-là, on a intégré tout de suite les responsables des espaces verts de 5 grandes villes de la région Nouvelle-Aquitaine, de la région Centre, pardon, Centre-Val-de-Loire, je commence à me tromper, et les élus de ces villes en charge des espaces verts. Donc, tous ensemble, on a fait cette recherche. Donc, on peut la qualifier comme une recherche appliquée, où dès le départ, on a voulu que le résultat de ce travail soit saisi par ceux qui font la ville, pour bien sûr faire évoluer leur pratique. Donc ensuite, le projet s'est fait pendant 3-4 ans. On a fait un énorme colloque dans les années 2015 où on a réuni des chercheurs du monde entier, des spécialistes des domaines, mais également des praticiens, comme on les appelle, pour échanger nos pratiques. De ce colloque est paru un texte, mais plutôt très scientifique, dans une revue canadienne. Et puis Amélie et moi, on s'est dit, à ce colloque, on a une cinquantaine de communications, toutes de très haute volée. Et on s'est dit, ce serait dommage de n'en faire qu'une publication scientifique dans une revue canadienne très pointue, où on n'en a pris que 12 ou 15, je ne me souviens plus. On s'est dit, on va en faire un ouvrage à la jonction entre la démarche scientifique et la vulgarisation. Sachant que pour nous, vous avez compris dans ce programme, la vulgarisation faisait partie quelque part du travail. Et donc, c'est comme ça qu'on a construit ces deux tomes. Alors, on les a construits non pas seulement une succession de textes les uns à côté des autres. Amélie et moi, on les a tous relus, on les a fait évoluer avec les auteurs. On a écrit des chapeaux introductifs qui mettent le lien entre tout ça. Et on n'a pas arrêté de travailler. Et jusqu'encore, juste avant la publication, on a réécrit l'introduction où on a intégré la notion de disservice, c'est-à-dire les faits négatifs de la nature en ville. C'est des choses qu'on n'avait pas vraiment perçues au départ. C'est au fil de ces travaux de 10 ans que finalement, on a fait un texte là-dessus. Amélie, tu veux compléter ?
Oui. Alors effectivement, la notion de service, elle est un petit peu au centre de ce travail. Alors le lien entre le service et puis nature en ville, il y a de plus en enfin la question de la nature en ville, elle est de plus en plus importante. Elle se pose de plus en plus parce qu'on a une demande croissante de nature en ville, et donc on a voulu avoir une entrée un peu particulière qui est celle des services écosystémiques, qui est aussi une notion qui est de plus en plus importante, donc qui renvoie à tout ce que la nature va apporter à l'homme, avec l'idée d'attirer l'attention sur l'importance de cette nature, évidemment l'importance de la préserver. Par rapport au projet de recherche qu'on a conduit, cette notion, elle était déjà centrale, avec l'objectif de de montrer, en fait, d'apporter des éléments de réponse aux villes qui étaient partenaires par rapport à ce que pouvait leur apporter la présence des espaces verts dans leur ville. Parce qu'en soi, c'était quelque chose qui était admis, mais difficilement mesurable. Et donc, c'était un petit peu d'attirer aussi l'attention des villes sur l'importance de cette nature. Et donc, c'est aussi ce que l'on a questionné dans le colloque, hein, qui s'intitulait « Services écosystémiques, apport et pertinence dans les milieux urbains », où en effet, on a eu la chance d'avoir de très nombreux participants, plus de 150 participants avec des chercheurs de différentes disciplines. Et donc, on a réfléchi tous ensemble à cette notion et ce que ça pouvait apporter dans notre regard que l'on pouvait porter sur la nature en ville. Du coup, là, l'ouvrage se décline en deux tomes, parce qu'effectivement, les échanges ont été riches et donc les productions ont été importantes. Donc, c'est 42 auteurs qui participent à la rédaction de ces deux tomes, donc 15 juste pour le premier. Le premier tome, il se centre plutôt sur les figures, le lien entre les figures de la ville et puis la nature, donc à travers la personne, le citadin, bien sûr, mais aussi un regard porté sur les gestionnaires. C'est ce que vous soulignez au départ. Et effectivement, c'est vraiment ces deux figures de la ville que l'on retrouve dans les deux parties qui vont constituer ce premier tome. Dans cet ouvrage aussi, ce qui en fait l'originalité, c'est qu'on va porter aussi un regard critique à la fois sur la notion de service écosystémique, mais aussi sur la nature en ville, en montrant qu'effectivement, la nature en ville, elle apporte de nombreuses choses aux citadins, aux gestionnaires aussi, mais elle a aussi des inconvénients. Et elle peut être aussi symbole finalement de ségrégation sociale dans la ville. On le voit notamment à travers l'étude qui a été conduite au Cameroun. On voit aussi que la recherche de nature du citadin, elle n'est pas forcément axée sur la ville elle-même, mais elle peut aussi aller en dehors de la ville, hein, que ce soit à Grenoble ou que ce soit en Algérie, à Annaba, où en fait on a... Donc ce sont des exemples, hein, qui sont pris par les auteurs dans l'ouvrage, dans la première partie, et on voit qu'en fait, la nature en ville, finalement, surtout, elle n'est pas suffisante ou elle ne répond pas forcément aux besoins du citadin, parce qu'elle va être associée à la pollution liée à la ville. Et donc, on a aussi des citadins qui vont aller rechercher la nature en dehors de la ville. Une demande donc de nature qui est croissante, et donc ceci a bien été perçu aussi par les gestionnaires des villes, qui essayent de développer de plus en plus de formes de nature, hein, avec effectivement des concepts comme le concept de service écosystémique qui va se diffuser aussi, qui va, suite à son opérationnalité, son opérationnalisation, à partir de 2005 notamment. Hein, et donc une volonté aussi croissante de la part des gestionnaires, eh bien, d'essayer de diversifier un petit peu les formes de nature en ville. Voilà, si tu peux compléter.
Donc de cette recherche, c'est aussi ce qu'on voit en filigrane dans le travail. Ce rapport à la nature est de, on va dire, quatre catégories différentes selon les acteurs. Il y a le citadin, monsieur tout le monde, qui recherche une certaine nature, souvent une nature propre, nettoyée, dans laquelle il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent, vous mettez mauvaises herbes entre guillemets. Ensuite, on aura la vision du technicien en charge de l'espace vert, celui qui va justement enlever les mauvaises herbes à quatre pattes, parce que depuis, on est tous passés dans le zéro phyto, et donc il y aura un tout autre regard de cette nature-là. On aura le chef de service qui lui aussi aura une toute autre vision, il essaie de mettre en application une politique qui vient bien sûr de l'élu. Et puis on aura l'élu, on a fait un texte là-dessus, on aura l'élu qui aura une toute autre vision, il verra le coût. Et souvent, ce qui nous est au départ, la nature, ça coûte cher, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Voilà, c'était vraiment ça. En termes de main-d'œuvre, il en faut toujours plus, puisque maintenant, on peut permettre les produits phytosanitaires, donc il faut du monde pour eux. Et donc, c'était un coût, et ils ne voyaient pas les retombées, en fait. Et donc, grâce à un travail comme celui-là, c'est des choses qui commencent à être évoluées. Donc, la mentalité, en tout cas, des gestionnaires avec qui on a travaillé, et aujourd'hui, je crois que la littérature commence à être bien fournie là-dessus, commence à évoluer. Et aujourd'hui, on commence à parler de plus en plus de bien-être et de qualité de vie dans la ville. C'est totalement nouveau, ça. Et dans la qualité de vie dans la ville, ce n'est pas seulement le logement social ou les mobilités douces, c'est aussi le fait de se retrouver dans une ville dans laquelle on se sent bien. Et se sent bien, c'est bien sûr la présence de l'espace vert. Et aujourd'hui, avec les confinements divers et variés, on a vu l'attrait vers la ruralité. La ruralité, pas seulement pour les cochons et les vaches, mais aussi pour l'espace vert. Et ces espaces verts, on les retrouve en ville. Donc aujourd'hui, le politique commence à vraiment le prendre en œuvre. Et ce bouquin-là, ben on le voit très bien. Et dans la conclusion, on le met très bien, ce changement de paradigme, ce changement de vision des choses. Et donc, voilà, ça, c'est un peu le résultat d'une dizaine d'années de travail. Je vous disais, dans la littérature francophone, c'est relativement nouveau. On est pratiquement les premiers à travailler sur cette façon de concevoir la nature, c'est-à-dire autour du bien-être. Mais chez les anglo-saxons, ça se fait déjà depuis très, très longtemps. Les psychologues travaillent énormément dessus. Mais nous, ça vient d'arriver. Et cet ouvrage-là, et le second qui vient, participe bien sûr à cela. Il s'avère que, grâce à ce programme de recherche, et puis autre chose, j'ai intégré le groupe de spécialistes français qui réfléchit sur les services écosystémiques. Ça s'appelle le groupe EFES, Évaluation française des services écosystémiques, dont l'objectif, c'est justement de faire intégrer, percoler cette notion un peu complexe au sein des territoires. Et dans le groupe de travail dans lequel on travaille, c'est seulement depuis 4-5 ans qu'on réfléchit à la qualité de vie, quoi, au bien-être. Et c'est totalement nouveau. Et je pense qu'il y a un énorme chantier à faire là-dessus, parce que quand on parle de services écosystémiques et d'impact, c'est très écologie, c'est très, très science dure. Mais dès qu'on bascule vers les sciences humaines et sociales, il n'y a pas grand-chose, parce qu'on parle encore d'indicateurs, on parle encore de... Alors, je commence à déborder sur le tome 2 quand on parlera de l'évaluation. L'évaluation des services culturels, c'est vraiment complexe. Mais ça, on parlera du tome 2 tout à l'heure. Peut-être que, si vous avez des questions, on peut échanger. Hein, Yvonique, on se connaît un peu. Donc, si tu as des choses à dire, vas-y.
Juste ce que je voudrais rajouter, c'est aussi l'intérêt de cet ouvrage et de la pluralité des auteurs, c'est qu'on a aussi un regard très interdisciplinaire, en fait. C'est aussi ce qui fait la richesse. C'est lié à la notion de service écosystémique qui est un petit peu utilisée par différentes disciplines, même si beaucoup moins par les sciences humaines et sociales. Et c'est ce qu'apporte aussi l'ouvrage, c'est que finalement, c'est des auteurs qui ne sont pas habitués à utiliser la notion et qui vont du coup porter un regard critique dessus. Mais on a aussi ce regard interdisciplinaire avec des écologues, des aménageurs, des géographes, des sociologues, donc vraiment différentes disciplines qui vont s'intéresser à ce rapport entre l'homme et puis la nature, entre le citadin et la nature, entre le gestionnaire et la nature. Et également, l'intérêt de l'ouvrage, c'est qu'on a aussi un regard qui n'est pas que centré sur la France, mais aussi un regard qui montre que cette question finalement de la nature en ville et des services que l'on peut éventuellement y associer, eh bien, elle n'est pas... Enfin, c'est pas simplement une question qui se pose en France, hein, mais on va la retrouver à travers le monde avec des formes de nature qui vont se répéter, que l'on va retrouver hein, l'espace vert urbain qui tend à se diffuser à travers les villes dans le monde entier, même si on va pas forcément y associer les mêmes choses. Voilà, je laisse.
Et, pardon, allez-y.
Bonjour, je suis Marie Legrand, vice-présidente de l'association Vienne Nature. C'est pour ça que je viens assister à votre conférence, parce qu'on est en plein dans un sujet qui nous concerne. Et j'étais par le passé, pendant presque 10 ans, adjointe chargée de l'environnement dans la ville de Poitiers. Et en 2001, j'ai introduit la ville sans pesticides, bien avant la loi. Alors c'est vrai que moi j'ai le regard, ce qui se passe à Poitiers, le rapport homme-nature entre le citadin de Poitiers et la nature à Poitiers. Et là-dessus, j'ai des pléthores d'anecdotes des plus variées sur le rapport entre le citadin et la nature à Poitiers. Alors, les questions viendront au fur et à mesure quand on illustrera sur ce que l'on sait. Est-ce que vous avez utilisé le livre « La peur de la nature » de François Terrasson ?
Oui, bien sûr. Il faut savoir que dans ce livre et dans cette recherche, il y a toute une partie état de l'art, c'est comme ça qu'on l'a appelé, c'est-à-dire un moment de la recherche où on lit tout ce qui se passe afin d'apporter quelque chose de nouveau. Donc, bien sûr, oui, ça c'est incontournable. Bien sûr.
Alors, maintenant, quelques petits détails amusants pour Poitiers. Puisqu'à Vienne Nature, on fait des inventaires, donc on connaît à peu près tout ce qui faune et fleurs, sauf tout ce qui est oiseaux réservés à la LPO. Alors, en dehors des inventaires, il y a quand même de belles histoires à Poitiers. Il y a 3 ans, un chevreuil au bord du Clain. Il y a quelques mois, une bande de sangliers en furie qui ont dévasté les jardins du crématorium. Donc, chevreuil, sanglier, des renards, il y en a pas mal dans les poulaillers des trois cités aussi. Des castors, il y en avait au pont Saint-Cyprien. Là, pour le moment, on les a perdus de vue. Donc, ça, c'est pour les animaux les plus gros. Mais il y en a beaucoup d'autres, en particulier les chiroptères la nuit. Alors, une dernière remarque. Est-ce que vous abordez la nature en ville la nuit? Parce qu'en ce moment, la moitié du temps, la nature en ville, elle est la nuit. Et alors, quel est le rapport citadin-nature la nuit? Il n'est pas très bon pour le moment, hein, avec l'éclairage surabondant. Hein.
C'est vrai que c'est un manque. On n'a pas eu d'auteurs qui se sont interrogés sur le rapport à la nature la nuit. Mais je pense qu'il y a des travaux qui commencent un petit peu à se mettre en place, hein, sur la question de la luminosité. Ça n'a pas été le cas. Par contre, oui, sur le lien à la nature, et je pense qu'en étant à la ville de Poitiers, vous avez dû avoir des critiques portées par les citadins. Et nous, c'était un petit peu ce qui nous avait interpellés, hein, de la part des gestionnaires, qui soulignaient le fait que finalement, beaucoup de citadins venaient se plaindre aussi de la nature en ville, parce que c'est source de nuisances, c'est le pollen, c'est les feuilles qui tombent, qui salissent, etc. Et donc ça, c'est vraiment un point qu'on a voulu souligner dès l'introduction de cet ouvrage, à travers la notion de disservice, hein, où on cite justement effectivement François Terrasson.
C'est vrai que cette recherche n'est pas complète. Il y a encore plein de choses à faire, notamment les questions de la nuit. On a très peu abordé l'animal, parce que sur l'animal, il y a énormément de choses à dire. Bien sûr, vous avez parlé d'animaux emblématiques, mais il y en a d'autres, hein. Il y a les cafards, il y a les souris, il y a les pigeons, il y a tout ça. Ça fait partie des éléments de nature. Donc, il y a des collègues qui travaillent sur l'animal, mais nous, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé dessus, mais c'est un champ de travail énorme, effectivement.
Oui, bonsoir, Bernard Legup. Je suis plutôt là en tant qu'acclimatéra de la région Nouvelle-Aquitaine. Je suppose que dans votre ouvrage ou dans le colloque auquel vous faites référence, il était question du changement climatique également, je suppose. Et quel service la nature en ville pourrait apporter en termes d'atténuation, bien sûr, mais aussi en termes d'adaptation. Voilà, ma question, c'est est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce sujet? Et est-ce que c'est abordé dans votre tome 1 ou peut-être dans votre tome 2?
Là aussi, ça fait partie des éléments qu'on n'a pas abordés dans le cadre de cette recherche. Mais bien évidemment...
Pourquoi? Parce que c'était trop antérieur par rapport à l'aspect médiatique du changement climatique aujourd'hui.
En fait, c'est parce que nous, on s'était attaqué à une thématique qui était encore pour nous peu usinée à l'époque, qui était les services écosystémiques culturels. On était vraiment parti dessus, quoi. D'accord. C'était vraiment notre entrée. On n'a du tout pas pris l'entrée changement climatique, même s'il y a plein de choses à dire, effectivement, comme vous dites, sur les tortues végétalisées. Il y a plein de choses en termes de climat urbain. Il y a plein de choses. Mais j'avoue que ce n'est pas l'entrée qu'on a pris. On a vraiment travaillé sur le bien-être en ville. Et
la biodiversité. Dont fait partie la biodiversité.
Oui, voilà. Le bien-être que peut apporter la nature, d'une manière globale. On est parti dessus. Et quand je parle bien-être, c'est vraiment le ressenti des habitants. Et quand je parle des habitants,
ça en fait partie quand même, du ressenti.
Oui.
Et du bien-être.
Oui, bien sûr, mais l'entrée n'était pas climatique.
Oui, d'accord.
Voilà, l'entrée n'était pas climatique. Le fait de s'intéresser au bien-être via la nature, c'était relativement nouveau en France. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, ça se fait un peu plus, mais c'était totalement inédit à l'époque, en tout cas dans la littérature francophone.
Oui,
c'était une entrée, et l'aspect changement climatique, bien sûr, on en fait un autre bouquin.
Oui, c'est peut-être plus technique que ce que vous aviez envisagé. Non,
parce si, qu'il y a aussi si moi des, j'aborde, si
il y a
moi j'aborde,
aspects socio-économiques aussi, si j'aborde les
questions, si j'aborde les questions de changement climatique, je le ferai dans notre façon de faire, c'est-à-dire en renversant la table, non pas en repartant des indicateurs comme on le fait aujourd'hui, mais en rentrant vraiment par l'humain, par la sociologie, par la géographie, dans lequel les indicateurs ne sont pas les mêmes. On est ici plus dans le ressenti selon les catégories. C'est ce que j'expliquais ici entre l'élu, le chef de service, le technicien. Et l'habitant, c'est pas exactement la même chose. Pourtant, on a le même espace naturel, j'allais dire. Donc, c'est plutôt notre entrée qui est une entrée de sciences sociales d'une manière pure et dure. Mais bien sûr, c'est tout un programme de recherche, et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais en tout cas, dans le bouquin Changement climatique, voilà, c'était un parti pris.
Merci.
Vous avez évoqué quatre entrées, donc l'habitant, l'élu, le chef de service. Et est-ce que vous parlez aussi de l'aménageur, de l'urbaniste, ceux qui construisent en fait le bâti et qui ont aussi une vision du paysage, et on le voit quand on est aux prises avec ça, qui pourrait en fait amener du bien-être et pourrait aussi être force de proposition sur une évolution. Est-ce que ça fait partie aussi de votre recherche?
Alors, il faudra attendre le tome 2. C'est plus, en fait, effectivement, dans les pistes que l'on peut proposer, hein, donc que certains auteurs se sont attelés à proposer, où, effectivement, ils apportent leur regard d'aménageur en proposant des pistes, notamment qui prennent en compte l'histoire. Et donc, ce sera donc plutôt dans le tome 2. Je sais pas si tu veux compléter. Il faudra être un peu patient.
Oui, moi, je voulais faire la remarque suivante. Je m'interroge un peu sur ce qu'est la nature en ville. Est-ce que, je prends des exemples un peu, je ne suis pas un spécialiste, hein, loin s'en faut, les bandes centrales entre deux voies de circulation, c'est de la nature. Pour moi, la nature, bon, les bords du Clain, c'est de la nature. Du fait d'arbres, des arbres qui s'y trouvent, dès qu'on sort un peu de la ville. Mais dans la ville, des espaces fleuris, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment la nature. En plus, j'ajouterais, malheureusement, que la façon dont ces espaces-là sont traités depuis quelque temps, ça ne fait pas l'unanimité. Voilà.
Alors, effectivement, alors c'est une question qu'on s'est posée, donc qu'on pose notamment dans l'introduction, hein, savoir qu'est-ce que c'est finalement cette nature. Elle peut prendre des formes très diverses. C'est d'abord l'espace vert urbain, hein, c'est peut-être celui sur lequel on s'est bien sûr plus focalisé, mais ce sont aussi les friches. Ce sont ici les végétaux qui vont se développer sur le bord du trottoir. C'est aussi les cours d'eau. Ça peut être aussi la nature qui est cultivée, qui fait aussi partie d'une forme de nature, même si ça reste du végétal qui croît, même si finalement c'est quelque chose qui est planté, qui est cultivé. Ça peut prendre vraiment différentes formes. On parlait des toitures végétalisées. On a notamment, alors, pareil, dans le deuxième tome, il faudra attendre un petit peu, mais on a un des auteurs qui s'est questionné sur... les surfaces enherbées qu'il va y avoir au niveau des tramways, qui font aussi partie des formes de nature. Si je prends Augustin Berck, hein, qui souligne aussi que la nature, c'est aussi l'air qu'on respire. La nature, elle est finalement partout, c'est tout ce qui échappe à l'homme. Alors après, la question, c'est effectivement de savoir est-ce que les végétaux, les petites fleurs qui sont... qui sont plantés, est-ce que ça fait partie de la nature? C'est planté. Bon, à ce moment-là, une grande partie des espaces verts plutôt historiques qu'on a au cœur des villes sont souvent des jardins d'ornementation. On a une nature qui est très, très contrainte finalement par l'homme.
C'est vrai que dans le programme de recherche donc, qui a donné naissance à ce bouquin, on s'était posé la question, et pour en guise d'échappatoire ou peut-être de réponse, on a pris l'avis de ceux qui habitent la ville et ceux qui pratiquent la ville. Et pour eux, c'est quoi la nature? C'est tout ce qu'on vient de citer. On n'est pas rentré dans une définition technico-technique. On part vraiment anthropocentré. Quand on rencontre la mémé qui traverse la route, c'est quoi la nature? Si elle nous parle du pot de fleurs, etc., pour nous, ce sera ça la nature. Et souvent, c'est tout ce qui est vivant, non humain, au sein de l'habitation. Pour nos entretiens et nos enquêtes, si on commence à rentrer vraiment dans les détails, on a, dans le cadre du programme de recherche, essayé de travailler sur les espaces verts publics, donc gérés par la ville, de plus d'un hectare. Donc c'était ça notre fenêtre de travail dans lequel on allait interroger le ressenti des personnes, dans lequel on allait regarder le travail des gestionnaires, etc. Donc, on n'a pas travaillé sur les plates-bandes, on n'a pas travaillé sur les arbres d'alignement, etc. Mais dans le cadre du colloque, d'autres personnes sont venues avec d'autres regards, notamment tout ce qu'on voit dans ce bouquin-là, et même les forêts extra-urbaines. Effectivement, la définition de la nature, il y a plein d'ouvrages qui traînent, qui traitent la question. Qu'est-ce qui est nature? Est-ce qu'il y a encore la nature? Il n'existe plus.
Pour résumer mon propos, est-ce qu'on peut parler de nature en ville à Poitiers, par exemple ? Parce que ce qu'on dirait, il y a de nature en ville à Poitiers. C'est ce terme.
Ah, effectivement, enfin, la notion de nature en ville en tant que telle, elle peut effectivement questionner, puisque à l'origine, nature et ville, c'est plutôt opposé. Et effectivement, en ville, on a une nature qui est totalement créée. Et ça pose effectivement question. On le questionne d'ailleurs dans la première partie de ce tome. Cette ambivalence entre nature et ville, hein, cette opposition qui peut aussi y avoir entre nature et ville. Pour autant, dans le cadre du projet qu'on a mené, il y avait quand même une petite partie biodiversité, une petite partie qui s'intéressait au sol. Et en fait, on s'aperçoit que en ville, on peut aussi avoir des espaces où on va avoir de la biodiversité importante. C'est le cas des friches, mais pas simplement. Et on peut aussi avoir une qualité des sols qui peut être aussi intéressante, avec des sols qui vont se reconstituer assez rapidement en ville. Alors après, il y a des problèmes de pollution des sols, c'est autre chose. Mais
Bonjour. Moi, je me posais la question, donc, vu que vous êtes un ouvrage plutôt axé sur la sociologie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des différents ressentis des citoyens, peut-être selon leur style de vie ou leur lieu de vie. Enfin, même à Poitiers, il y a quand même des disparités qui sont importantes selon les territoires. Donc, si vous connaissez Poitiers, par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler de ce sujet-là ?
Alors, je vais pas beaucoup parler de Poitiers parce que je connais pas très bien Poitiers encore. L'ouvrage, on a fait une entrée anthropocentrée, comme j'appelle, donc par les habitants et par ceux qui vivent la ville, mais ça reste un travail de géographe au départ. Donc, on n'est pas, même s'il y a eu des sociologues dans le projet, hein, qu'est-ce que je peux vous dire? Des exemples très précis. On a interrogé dans un parc de la ville de Tours le ressenti dans un grand parc, le jardin des Prébendes, ceux qui connaissent, en plein centre de ville, mais un beau parc, hein. Les dames qui venaient promener les enfants, les poussettes, assistantes maternelles, en gros. Et pour elles, ce qui les embêtait le plus dans ce magnifique parc, c'était la présence de sol, de terre. La terre, pour elles, c'est sale. La terre, pour elles, c'est pas top pour la poussette. Parce qu'après, quand il faut rentrer la poussette dans les appartements, c'est pas terrible. Et donc, pour elles, le parc le plus abouti, ce serait le parc dans lequel le sol ne se voit pas du tout. Donc, on peut mettre de l'herbe, mais l'herbe, c'est difficile à entretenir. Et donc, souvent, là où on pousse la poussette, il y a cet enrobé qui cache totalement, finalement, cette nature. Donc, en gros, dans leur conception des choses, la nature était belle quand elle était plus naturelle. C'est un exemple. Mais bon, des exemples comme ça, j'en ai beaucoup. On a fait un travail avec des stagiaires sociologues qui ont travaillé sur ce que les usagers d'un parc entendent en termes de son d'oiseau. Il y a des choses qu'ils comprennent et d'autres pas. Donc là aussi, c'est tout un travail. C'est pas dans l'ouvrage, malheureusement, mais il y a tout un travail dessus sur le bruit qu'on entend dans les parcs. Et voilà. Donc selon les catégories, selon pratiquement le moment de la journée, c'est pas pareil du tout. On a travaillé, bien sûr, dans les jardins potagers, qui est une forme d'offre de nature de la ville. Et pareil, les jardiniers, selon leur âge, c'est pas pareil du tout. Entre un jardinier qui a un certain âge, qui a été nourri avec le glyphosate, ben, il n'a pas du tout la même vision des choses que le petit jeune qui arrive. Voilà. Là aussi, c'est toute la richesse d'un travail comme celui-là.
Peut-être, alors là, d'un point de vue plus spatial, sur les disparités qu'il peut y avoir, les disparités socio-spatiales, on s'aperçoit quand même que souvent, c'est les quartiers les plus populaires sont moins pourvus en espaces verts. Et par exemple, quand on prend le quartier des Prébendes à Tours, bah, c'est plutôt un quartier plutôt favorisé, quoi, on va dire. Donc effectivement, l'entrée espace vert peut être aussi un indicateur de la ségrégation socio-spatiale qu'il peut y avoir en ville. Hein, avec, donc voilà ce que je voulais souligner. Ça, c'est Ça apparaît dans un des chapitres qui questionne notamment la présence de la nature en ville au Cameroun, qui montre qu'on va avoir différents types d'espaces verts avec différents types de fréquentation, avec des espaces verts qui vont plutôt être privatisés et d'autres espaces verts qui vont être ouverts à tous, mais du coup, lieu de pratiques illicites, de pratiques informelles, voire d'agressions. Donc on le questionne dans ce tome, et là aussi il faudra attendre le tome 2, mais dans le tome 2 il y a également une entrée un chapitre qui s'intéresse aux données socio-économiques des riverains des espaces verts, montrant qu'effectivement on peut avoir pour certains espaces verts à proximité des espaces verts des personnes on va dire plus aisées avec voilà. Donc ça c'est des éléments qui peuvent ressortir qui sont pas systématiques pour tous les espaces verts, puisque on peut avoir comme au Cameroun des espaces verts qui sont un peu plus isolés, qui sont un peu moins bien fréquentés, on va dire.
Oui, le chapitre auquel fait référence Amélie dans ce premier tome, donc qui est déjà disponible, s'appelle « La nature catalyseur de la division sociale ». Voilà. Donc, vous allez trouver pas mal d'éléments avec des applications, effectivement, en Afrique. Et ce serait intéressant que vous nous disiez à quel point, finalement, à partir d'une approche très individuelle des choses, le contexte géographique, finalement, compte assez peu. Enfin, il y a des caractéristiques, évidemment, liées au climat, etc. Mais vous êtes parti des attentes et des représentations des individus. Et là, la différence n'est pas aussi nette que cela. Et je voulais juste, par rapport à ce que proposait Bernard Legube à propos d'une réflexion entre la présence de la nature en ville et les enjeux climatiques. Il se trouve que demain, nous allons beaucoup parler du philosophe Bruno Latour à l'occasion de la Nuit des idées. Et Bruno Latour propose de repartir pour que nous discutions ensemble, pour que nous débattions ensemble, que nous retrouvions le sens de la délibération ensemble sur des questions aussi graves que les questions écologiques. Bruno Latour propose que nous réfléchissions chacun sur la description du milieu dans lequel nous vivons, une autodescription des choses qui nous sont très chères, qu'est-ce qui compte vraiment dans notre environnement quotidien. Et je trouve qu'avoir pris le sujet par ce côté-là, ça permet justement d'arriver sereinement. Je ne sais pas si vous en aurez l'énergie et si vous avez cette perspective, mais ça permet justement d'arriver en faisant décanter un peu qu'est-ce qui compte vraiment pour nous dans notre rapport à la nature. Et sur ce sujet-là en ville, eh bien, on évite un peu les grands sujets idéologiques, les grands thèmes qui fâchent, les sujets qui sont d'emblée clivants. Et alors, en repartant de votre analyse, qu'est-ce qui ressort de ce que les gens vivent dans leur quotidien ? Eh bien, nous pouvons peut-être retrouver les voies d'un dialogue pour aller sur les choses essentielles quant au changement climatique. Et c'est vraiment la démarche, alors très résumé très très schématiquement, mais c'est vraiment la démarche de Latour qui nous dit, eh bien, une fois qu'on aura tamisé un peu tout ça et qu'on aura vu ce qui compte dans les territoires pour les gens qui y habitent, à ce moment-là, on va passer à la dimension politique, seulement à ce moment-là. Et nous verrons qu'est-ce qu'il faut défendre, contre quoi il faut lutter. Et donc, je trouve que nous avons une belle résonance avec ce qui va être discuté demain soir sur la web radio de l'Espace Mendès France à l'occasion de la Nuit des idées. Mais l'émission pourra aussi accueillir du public. Donc, voilà, si vous en avez le temps, vous pouvez venir aussi à ce moment-là. Voilà.
Juste pour comprendre un peu le travail universitaire et scientifique, comment on travaille justement avec des témoignages d'habitants ? Vous faisiez le distinguo entre la donnée, les indicateurs qui sont souvent utilisés dans les recherches à la fois sur le changement climatique et sur les questions de nature en ville. Mais là, puisque vous partez d'une autre entrée, comment on travaille avec ces données-là ? Ce sont des témoignages que nous, on rencontre aussi et auxquels on a affaire dans la ville, dans le travail à la ville. Et souvent, c'est complexe parce qu'ils peuvent se croiser, ils peuvent se télescoper. Mais je serais intéressé d'avoir la démarche universitaire et sur cette donnée-là, ces données-là.
Alors là, c'était doublement compliqué parce qu'il y avait bien sûr prendre en compte le dire d'acteur, comme on appelle, les usagers. mais également rendre cette recherche compréhensible par d'autres disciplines. On vous a dit qu'on était vraiment dans une démarche pluridisciplinaire. Donc, on avait des écologues avec nous. On avait même un statisticien parce qu'on voulait faire un modèle numérique pour générer automatiquement un espace vert avec, en calculant pratiquement son coût. Donc, on avait vraiment tout l'échéancier, le gradient, en fait, depuis les sciences les plus molles aux sciences les plus dures. Donc, il a fallu qu'on se comprenne tous. Et donc, c'était doublement difficile. Donc, ensuite, comment intégrer le résultat d'enquête dans un travail scientifique c'est notre boulot quotidien. Déjà, au départ, il faut avoir des hypothèses bien carrées. On a comme l'impression que, comme ce n'est pas de la science dure, forcément, on va dans tous les sens. Donc, au départ, des hypothèses bien identifiées. On sait exactement quelles questions on va poser. Et ensuite, il y a tout un travail pratiquement statistique des réponses pour en tirer le plus petit dénominateur commun par rapport à ce qu'on a pris, en intégrant, bien sûr, les différences entre les acteurs. On pourra en revenir dessus, hein, mais c'est un peu ça notre quotidien de travail de géographe, hein, quand on travaille avec différents acteurs.
Et pour poursuivre la question, là, quel indicateur vous avez utilisé alors, dans vos questions? Alors, vous ne voulez peut-être pas dévoiler le contenu de l'ouvrage, c'est probablement indiqué dans l'ouvrage, mais pour questionner, parce que vous parlez d'une enquête, pour questionner le public d'une manière générale sur le bien-être et ce que la nature peut lui procurer ou pas comme bien-être, vous avez dû utiliser des indicateurs un peu particuliers parce que moi, je suis scientifique plutôt sciences dures, donc je ne suis pas habitué à ce genre d'approche, mais ça m'intéresse, quoi. Donc,
page 163, quand vous aurez l'article, le texte, vous allez voir les services écosystémiques dans l'action publique entre contexte favorable et obstacle. Là, il s'agit purement de résultats d'enquête que nous avons réalisés avec un élève ingénieur en aménagement de Polytech Tours. Et voilà, on est pile là-dedans. Le terme indicateur, c'est quelque chose que j'utilise moins quand je travaille sur les enquêtes. On n'est vraiment pas dans des indicateurs comme on pourrait l'avoir dans d'autres sciences. On est dans... Non, mais je comprends bien. C'est pas de l'indicateur. Ce sont des questions avec des hypothèses. Il y a des réponses à ces questions qu'on peut coder et ensuite on regarde le plus petit dénominateur commun. On regarde ce qui en est sorti. On peut appeler ça comme on veut, mais ce n'est pas des indicateurs en tant que tel parce que dans cette démarche-là, l'indicateur, il correspond à une personne et puis c'est tout, quoi. Voilà. On est moins dans la démarche indicateur. Donc, mais vous allez lire le chapitre, alors je ne sais plus lequel c'est, page 63. Voilà. Donc là, on a interrogé les trois catégories, les élus, chefs de service et techniciens. Et ensuite, tout est détaillé là-dedans. Et c'est un travail mené non pas par un sociologue, mais aujourd'hui, Justin Lamar est aménagiste. C'est comme ça qu'on appelle au Canada, c'est-à-dire aménageur. Il travaille dans l'aménagement du territoire. Donc, pas d'entrée sociologique du tout, mais plutôt une entrée géographie-aménagement.
Juste en précision un peu technique qui n'est pas forcément très excitante, mais c'est quand même important de témoigner de la manière dont se construisent les sciences humaines et sociales. Donc, quand on fait des travaux d'enquête en sciences humaines et sociales, c'est jamais basé sur des indicateurs, effectivement. C'est des hypothèses que l'on teste en sondant, hein, voilà, des individus. Et les indicateurs, ils sont plutôt réservés. Enfin, ce terme en sciences humaines et sociales est plutôt réservé à l'usage de statistiques, donc avec beaucoup de données chiffrées qui correspondent à des grandes quantités d'enquêtes qui ont été réalisées, mais qui ont permis de coder un certain nombre de choses. Et ces statistiques qui sont déjà agrégées entre elles donnent lieu ensuite, par croisement entre elles, à des indicateurs que l'on espère être le plus près possible de la réalité qu'on essaye de traduire. Donc il faut vraiment faire la différence dans les deux techniques qu'utilisent les sciences humaines et sociales. Soit on travaille directement sur des statistiques avec des grandes quantités de données, et là on peut construire des indicateurs, soit on est sur de l'enquête ou du sondage, et à ce moment-là on essaye de restituer quelle est la tendance qui apparaît derrière un certain nombre de réponses. Et l'idée qu'on a derrière la tête quand on fait le sondage ou l'enquête, eh bien effectivement c'est basé sur des hypothèses, sont-elles vérifiées ou non. Et là il faut toute l'humilité parce qu'on est sur des sciences molles.
Peut-être un exemple, là, pour cette étude-là, en l'occurrence, on avait questionné les différents acteurs sur qu'est-ce qu'ils associaient aux différents types d'espaces verts en termes de bien-être, en termes de loisirs, voilà, en termes d'activités que les citadins pouvaient conduire. Mais c'est vrai qu'on était parti sur un petit nombre quand même de personnes interrogées donc qui apportent leurs propres témoignages, mais qui voilà, sont difficilement extrapolables et donc peuvent difficilement donner lieu à des indicateurs.
Là on commence à voir la différence disciplinaire. Nous, géographes, on va dire, avec 20-30, on fait des choses intéressantes. Il s'avère que je termine un travail avec une anthropologue. Avec une personne, ça suffit. Hein. Donc, bon.
Alors, moi, je vais vous citer un exemple sur le sujet du rapport citadin-nature en ville. Il y a quelques années, le service des espaces verts à Poitiers, avec les élus, je pense, de l'époque, dont je n'étais pas, c'est assez récent, a commencé à inaugurer une expérience d'écotone dans différents secteurs de Poitiers. C'est-à-dire une autre manière de gérer ces espaces interstitiels en laissant des plantes croître pour permettre aux insectes de proliférer, la chaîne insectes-oiseaux d'exister. Vent debout, certains habitants, vent debout, car par non-compréhension de la plante qui monte et qui est comme ça. Donc on ne comprend pas pourquoi on fait ça. Alors que maintenant, la pratique se développe dans des parcs. On dégage un chemin pour les piétons, mais on laisse les plantes. C'est indispensable pour la chaîne biodiversité, insectes, oiseaux, qui sont quand même assez en péril. Il y a une deuxième expérience qui est lancée aussi, qui serait intéressante à multiplier dans la ville. C'est ces trottoirs qui sont utilisés et entretenus par les habitants. Mon voisin est un praticien assez remarquable. Et voilà, et sur lesquels on fait pousser des plantes autochtones ou des plantes aromatiques, ce que l'on veut, et ça permet d'introduire la nature en ville. Alors, je voulais vous dire, il y a une étude qui sera intéressante. À Poitiers, vous montez dans un planeur, vous regardez la ville, une quantité de jardins, mais hallucinante. Parce que je ne parle pas de la ville seulement ancienne, mais autour, quantité de jardins personnels, quelques-uns collectifs, incroyables. Eh bien, c'est intéressant d'aller voir comment ils sont faits, ces jardins. Alors, je parle aussi bien des potagers que des jardins d'agrément. Eh bien, observez un jardin, vous comprendrez le rapport entre le maître et la nature. Vous avez le jardin où il n'y a pas une plante non désirable qui déborde. Il y a un peu de chimie en douce. Et puis, voilà, on ne tolère pas la plante indigène. Pelouse coupée à ras tous les 4 matins. Et puis, il y a les jardins avec permaculture, expériences variées, accueil d'autres plantes. C'est spectaculaire. Et pour le jardin d'agrément, c'est pareil. C'est pareil. Vous avez les deux typologies. Alors, tout ça pour dire, je terminerai là-dessus, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'a écrit Bernard Lahire sur les déterminismes dans le comportement humain. C'est-à-dire, vous avez, dans votre manière d'être, toute une série de déterminismes qui sont liés à l'héritage génétique, l'éducation dans le jeune âge, ça vous a imprégné, vous êtes là-dedans, c'est vos déterminismes. Et puis, il y a ceux que vous allez vous créer au long de votre vie, volontairement. Alors, moi, je pense qu'il y aura un gros travail à faire en matière de rapport nature en ville pour une certaine catégorie de la population qui ne s'est pas posé la question, qui est incapable de reconnaître une Kélidouane d'un pourpied de rien du tout, quoi, hein, à part une carotte et une pomme de terre. Donc, il y a un travail d'éducation, il y a un travail d'ouverture d'esprit pour casser ce déterminisme.
Effectivement, on peut souligner que, notamment en ville, le citadin s'est un peu déconnecté de la nature, mais il y a des évolutions qui sont en cours, avec effectivement désormais une nature plus sauvage qui est un peu plus appréciée que par le passé. Je pense que le zéro phyto, il y a aussi joué et effectivement la sensibilisation, le travail de sensibilisation qu'ont essayé de faire certaines villes a peut-être aussi fonctionné. Et puis c'est aussi aujourd'hui la prise de conscience de la nécessité d'avoir de la biodiversité. Le point sur le changement climatique aussi fait que on a une prise de conscience qui est croissante quand même et avec des évolutions qui sont notables. Oui.
Bien, y a-t-il d'autres questions ou interventions, commentaires ? Non, mais écoutez, je vous propose, merci beaucoup pour la qualité des échanges, merci beaucoup pour votre présence,
merci
beaucoup aux auteurs Amélie et Jean-Louis qui ont accepté de venir présenter le fruit de ce travail qui date déjà un peu. Et comme on passe en recherche d'un sujet à l'autre, il fallait se replonger dans un ouvrage voilà, sur lequel on a passé tant de temps. Et c'est comme ça, effectivement. Et merci beaucoup à vous. Et puis, bah, j'espère que ça a donné envie à nos auditeurs de regarder un peu plus près cette question-là. Et puis, on se donne rendez-vous pour le prochain livre qui paraîtra dans cette collection que Marie Ferru nous a présentée. Et voilà, très bonne soirée à vous tous et à toutes.
Merci.